quelle belle fleur. Moi, je peux le dire parce que je m'appelle Blumach. J'ai un ancêtre de Glarus qui s'appelait Blumach, Johann Jakob Blumach. Les deux sœurs avaient vécu des journées difficiles, très sombres, dans le deuil et presque le désespoir. Elles avaient déjà fait appel à Jésus quand leur frère est devenu malade, en envoyant un message si bref et rempli d'espérance que ça me bouleverse chaque fois que je lis. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et c'est tout. Alors, vous connaissez, c'est en Jean 11, et les sœurs s'appelaient Marthe et Marie, et le malade s'appelait Lazare. Elles espéraient, elles attendaient. Et qu'est-ce que Jésus a fait quand il a reçu cette prière si brève, si belle, si remplie de confiance et d'espérance? Ben, il a fait la même chose qu'il fait parfois quand je prie des très bonnes prières, je dois le dire. J'ai deux diplômes en théologie, je sais, parce que je sais prier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Rien du tout. Il n'a pas bougé. Il n'a pas agi. Et le pire, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est qu'il ne donne pas d'explication. Nous vivons dans une génération où depuis deux siècles, nous pensons avoir le droit aux explications. Nous avons le droit de comprendre. Et nous avons même fait de notre compréhension une condition de notre obéissance. C'est un piège diabolique qui a très bien fonctionné depuis longtemps. Le Seigneur nous dit quelque chose, on ne comprend pas, ou seulement en partie, et on ne bouge pas parce qu'on attend la compréhension et on n'arrive jamais à obéir. Mais dans l'économie de Dieu, la compréhension suit l'obéissance. C'est une fois avoir obéi à cette parole que la compréhension commence à venir et notre compréhension grandit au fur et à mesure. Moi, je suis toujours en train de comprendre des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a envoyé avec ma femme en Suisse il y a 47 ans. On n'a rien compris au début, rien du tout. Mais je suis très content qu'on a eu la grâce d'obéir avant de comprendre. On était des millions de croyants dans le monde entier, dans presque tous les pays, à prier que le Seigneur arrête cette pandémie pendant toute l'année passée. En réfléchissant, moi je crois que jamais dans l'histoire de l'Église est-ce que tant de millions de croyants ont prié avec tant de ferveur la même prière, « Seigneur, arrête cette pandémie ». Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Rien. Il n'a pas bougé, il n'a pas agi. Et pour beaucoup, c'est incompréhensible. Ça m'a toujours fasciné, ces questions de prière. Pourquoi le Seigneur exauce dans certaines situations et n'exauce pas dans d'autres? Et j'ai fait de ça un des sujets d'étude de ma vie entière. Parce que je voulais comprendre ces voies. On nous a donné ce défi à Jeunesse en Mission dans les années 70, tiré du psaume, est-ce que c'est le 106? Le peuple d'Israël a voulu voir les œuvres de Dieu, mais Moïse a cherché de comprendre ses voies. Alors nous vivons dans une génération où tout le monde aimerait voir les œuvres de Dieu, surtout les miracles, le surnaturel, on court après le surnaturel, mais combien sont ceux, où sont ceux qui cherchent à comprendre ses voies? Ce défi est resté avec moi, je cherche toujours. J'ai peut-être compris certaines choses. Et certaines de ces choses, je les ai mises dans ce petit livre. Mais retournons dans le village de Béthanie. Vous connaissez ce récit et je vais vous laisser le lire en détail par la suite. Finalement, Jésus arrive, 4 jours après l'enterrement de Lazare. Marthe sort de la maison pour le rencontrer et elle dit ceci. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On entend la douleur dans sa voix. Mon frère est décédé et tu n'étais pas là. Tu n'as rien fait, tu aurais pu le guérir même à distance. Et maintenant, il est mort et tu n'étais pas là. Mais elle a dû voir quelque chose dans ses yeux parce qu'elle a dit, mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et Jésus a dit, je vais trouver les mots exacts, ton frère ressuscitera. Verset 23. Et Marthe lui répond, oh, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. J'ai entendu ça toute ma vie à l'école de dimanche, etc. Je comprends ça. Mais ça, c'est dans un avenir lointain, cette résurrection. Maintenant, il est mort et tu n'étais pas là. Marthe a fait l'erreur que moi j'ai fait comme jeune chrétien de penser que la résurrection était seulement un événement futur. Alors nous, maintenant, nous fêtons la résurrection le moment passé, il y a 2000 ans, et nous attendons la résurrection à venir dans le futur. Il y a beaucoup plus que cela. C'est Jésus qui le dit. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. La résurrection n'est pas seulement un événement qui a marqué l'histoire du monde, même pour changer notre calendrier. Ce n'est pas seulement un événement glorieux pour le futur. La résurrection est une personne et il s'appelle Jésus. Et nous sommes invités et même appelés à vivre dans sa vie de résurrection tous les jours, pas seulement un jour par année. Et ça, c'est un des grands secrets de la vie chrétienne. Si on a un ministère quelconque, on découvre tôt ou tard qu'on ne peut pas juste fonctionner dans notre propre force, notre propre énergie, notre propre compassion, parce que ce n'est pas suffisant dans ce monde en perdition. Ça ne suffira pas. Et nous arriverons au bout de nos propres ressources. Et soit on va faire un burn-out et quitter le ministère, soit on va poursuivre avec Jésus et apprendre comment vivre sa vie de résurrection tous les jours. Et si je suis toujours dans le ministère, j'ai commencé avec Jeunesse en Mission en 72 avant de venir en Suisse. Ça fera 50 ans l'année prochaine. C'est parce que par sa grâce, j'ai appris à faire comme ça. Et il n'y a pas de recette vite faite. Je ne peux même pas expliquer comment j'ai fait pour pouvoir arriver là. Mais je sais seulement que c'est vrai. Et c'est parce que j'ai prié ardemment pendant des années pour qu'il m'aide à faire entrer dans son repos, dans sa vie, au lieu de fonctionner seulement par ma vie à moi. Vous connaissez le reste du récit. Marie entend qu'il est là. Elle sort de la maison à son tour et elle va vers Jésus. Elle tombe à ses pieds en pleurant et elle dit ceci. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La même reproche, mot pour mot. La même insulte publique devant tout le monde. Comme un gifle dans le visage. Comment ça se fait qu'elle, qui n'était pas là quand sa sœur a rencontré Jésus, comment ça se fait qu'elle dit la même phrase mot pour mot? Ben, je crois que la réponse est assez évidente. Les sœurs auraient passé la nuit après le décès de leur frère à côté de son lit de mort. Et elles auraient parlé, elles se seraient posées des questions, et surtout au sujet de Jésus. Pourquoi il n'est pas venu? Qu'est-ce qui faisait que c'était si important qu'il ne pouvait pas venir guérir notre frère? Il a guéri beaucoup d'autres. Il a même guéri des étrangers. Et puis il répétait sans cesse à chaque visite qu'il aimait notre jeune frère. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus lui-même dit qu'il aime et puis il ne fait rien dans son heure du plus grand besoin? Ces questions ne sont pas écrites dans le texte. Mais il n'y a pas besoin parce que nous nous sommes posé ces mêmes questions. Nous les connaissons par cœur. Et elle se serait dit, en répétant tout le reste de cette longue nuit, si seulement il avait été là, notre frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et vois. Et on lui a montré le tombeau. quand il a compris qu'elles n'ont pas pu attendre, il a pleuré. Il y a plusieurs théories pourquoi Jésus a pleuré. Je ne vais pas vous tout répéter, mais une des théories, c'est qu'il pleurait parce que le peuple juif était là, désemparé devant la mort. Ils n'avaient aucune réponse à la mort. Ils étaient sous l'emprise de la crainte de la mort, autant que les païens autour. Et en voyant cela, cette emprise de cette force maléfique, il a pleuré pour le peuple de Dieu. Moi, je pense que nous sommes encore sous cette emprise-là. C'est une des forces dans notre monde la plus forte, la crainte de la mort. C'est un des grands moteurs du mouvement écologiste, par exemple. La planète va mourir. On a une jeunesse particulièrement qui vit dans la crainte, dans l'épouvante, en pensant que d'un jour à l'autre, peut-être, la planète va mourir. Maintenant, je compose plus que vous tous. Je suis très écolo dans mes 200 mètres carrés de terrain de jeunesse en mission. Je suis un membre fondateur des Amis des Vers de Terre de la Côte. Je recycle dans 17 catégories. Mais je fais ça pas par la crainte de la mort. Je fais ça parce que j'aime le Seigneur et sa création. Et j'aime beaucoup cette responsabilité que j'ai acceptée de gérer ce petit coin, de le rendre de plus en plus beau à sa gloire. Et j'en témoigne, vous pouvez les voir sur Max TV. Vous mettez Tom Bloomer, qu'est-ce qu'il a appelé? Tom Bloomer, le jardin de Dieu. C'est Max TV qui a choisi ce titre. Moi, je crois que tous les jardins sont les jardins de Dieu, mais bon. Des épisodes très courts, une trentaine, qui ont suivi le déroulement de l'année de jardinage dans mon jardin, avec des leçons du royaume tirées de ces plantes et de ce travail. Mais je crois qu'il a pleuré ici, surtout pour Marthe et Marie. Parce que qui peut nous faire pleurer? Ce sont des gens qui sont les plus proches. Ce n'est pas n'importe qui. Et ces deux étaient très, très proches de Jésus. Plus proches apparemment que ses propres sœurs à Nazareth. Plus proches que même certains des 12, peut-être. On pense qu'il était peut-être un cousin, en quelque sorte, de cette petite famille. Il aurait dit à Lazare qu'il l'aimait parce que Lazare était en train de grandir dans cette maison sans parents. Les parents étaient décédés bien avant. Luc nous dit que... Non, c'est bien fait. Mais j'étais où là? Oui. Jésus étant très conscient que Lazare grandissait avec ses deux grandes sœurs formidables, mais sans avoir un homme dans sa vie. Et cette relation paternelle avec un homme ou un frère aîné est tellement cruciale pour le développement d'un ado, garçon ou fille. Et Jésus, d'autant plus qu'il était en train d'aider sa maman à élever ses 4 frères. Son papa, lui, est décédé entre l'âge de 12 et 30 ans, quelque part. Donc, peut-être que chaque fois qu'il passait à Béthanie, il s'arrêtait pour voir la petite famille, mais il passait surtout du temps avec Lazare pour lui dire « je t'aime », pour que ce jeune homme se sente en sécurité, aimé par une figure paternelle. Souvenons-nous que nous sommes ici en quelques jours seulement de l'arrestation de Jésus. Et il avait un grand défi qui lui restait. Les disciples avaient appris assez tôt dans son ministère comment prêcher l'Évangile, chasser les démons et guérir les malades. Ça, c'était la partie facile de la révélation de Jésus-Messie. Mais ils n'avaient pas capté, à cause de la puissance, l'emprise de l'enseignement pharisien sur eux, ils n'avaient pas capté que le Messie venant cette fois-là n'était pas le Messie conquérant avec qui allait établir Israël comme puissance politico-militaire, qui allait chasser les Romains, renverser Hérode. Il ne venait pas pour tout ça cette fois. Il venait comme serviteur souffrant. Il venait pour donner sa vie pour le peuple de Dieu. Ça, il n'avait pas compris. Jésus l'a bien expliqué combien de fois. Et chaque fois, il secouait la tête. Oui, oui Seigneur, si tu le dis. Et puis, rien n'est descendu. Donc, il priait, je crois, il priait le Père. Père, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il comprenne? Je vais être arrêté dans quelques jours. Et il faut qu'il tienne ferme devant ces événements. Puis, il aurait reçu le message de Béthanie, celui que tu aimes est malade. Et il aurait tout de suite demandé au Père, parce qu'il faisait que ce qu'il voyait le Père faire, n'est-ce pas? Donc, moi, je crois qu'il demandait le Père chaque jour, « Père, est-ce que je vais guérir Lazare? » Et le Père a répondu, « Non, laisse-le mourir. » Et c'est parfois sa réponse quand nous prions pour une guérison physique. « Non, laisse-le mourir. » Ma femme était gravement malade il y a 9 ans exactement. Et c'est la réponse que le Seigneur a donnée à ces milliers de personnes qui avaient prié pour elle. Par la suite, j'ai compris quelques petites raisons pourquoi, peut-être. 3, je crois. Mais il faut que nous réalisions que quand nous prions pour la guérison de quelqu'un, pour le Seigneur, la pleine guérison, c'est quand on est avec lui. La pleine guérison, on ne le vit pas ici. Parce qu'il y a toujours la douleur, des larmes, des ronces et des épines ici-bas. Mais là, auprès de lui, on passe du pays des mourants au pays des vivants. Et c'est là où il y a la pleine santé. Donc quand nous prions « Seigneur, guéris-la », c'est parfois sa réponse. Elle était en douleur de 3 conditions différentes que les médecins ne pouvaient pas traiter. Et même si elle avait été guérie de cette maladie, elle aurait été dans la souffrance constante. Elle avait déjà planifié de ne plus pouvoir jardiner. Elle était responsable des jardins de Jeunesse en Mission devant la maison de Bucini. Et je crois que ça l'aurait tué, ne pas pouvoir jardiner. Mais Jésus aurait tout de suite compris quand le Père a dit non, que s'il ressuscitait Lazare devant les yeux de ses disciples, il se souviendrait de cela peut-être une fois devant son tombeau à lui. Mais il fallait le laisser mourir. Alors, il aurait pensé aux implications d'abord pour Lazare. Mais Lazare, il aurait eu l'impression de dormir un peu plus, c'est tout. Et il aurait certainement pensé aux implications pour Marie et Marthe. Mais il était si proche d'elle, il se serait dit, je crois que je peux faire confiance à ces deux. Même en sachant qu'elles vont vivre les 4 jours les plus difficiles, les plus sombres de leur vie. Mais je crois que je peux leur faire confiance. Je crois que je peux leur faire la confiance d'une prière inexaucée. Parce que voici le principe, chers amis. Quand nous prions Dieu, nous lui faisons confiance. Quand lui ne répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Je vais répéter ça, c'est très important. Quand nous prions Dieu, c'est nous qui lui faisons confiance. Quand il ne répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. Alors, voici donc la question qui s'impose. Est-ce qu'il vous a fait la confiance d'une prière inexaucée? Mais les sœurs n'ont pas pu attendre Jésus. Et Jésus pleura. Je crois que cela nous montre que leur confiance n'était pas vraiment en Jésus. Leur confiance était dans leur projet, les choses qu'elles voulaient qu'ils fassent à leur moment, au moment qu'elles auraient choisi. Alors, nous, on est trop sophistiqués maintenant pour avoir des idoles faites de bois et de pierre, mais on est très fort pour faire des constructions idolâtres de nos projets, de nos plans, de nos ministères, des choses qu'on élabore et on peut suivre des séminaires pour construire son ministère futur, pour le planifier étape par étape. Et on demande au Seigneur de bénir nos constructions. Et on est très étonné quand il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il veut que nous réalisions où nous avons placé notre confiance. Est-ce que c'était vraiment en lui ou est-ce que c'est dans la chose que nous voulons qu'il fasse pour nous, à notre timing? Comment savoir la différence? C'est quand il ne répond pas, justement. Quand il ne répond pas, est-ce que c'est là où on va tout laisser tomber, on va être en colère avec Dieu, même blasphème, ou est-ce qu'on va continuer à le suivre? Où est-ce qu'on a placé notre confiance? Pourquoi est-ce qu'on suit le Seigneur? Quand Cynthia était malade, on ne savait pas qu'elle était mourante d'une maladie sans cause connue, sans remède, sans survivant aucun. Le Seigneur m'a posé cette question. Il a dit, est-ce que tu vas continuer à me suivre même si je n'exauce aucune de tes prières futures? J'ai pensé, waouh, quelle question. Mais j'ai tout de suite répondu, oui, Seigneur, je continuerai à te suivre, même si tu ne réponds pas à mes prières. Je ne te suis pas parce que tu réponds à mes prières, je suis pas à cause de qui tu es. Ne sachant pas que ma femme était mourante et qu'il n'allait pas exaucer tous ces milliers de prières. Mais il nous a fait la grâce, à moi et mon fils, qui était encore aux USA, de nous dire qu'il n'allait pas la guérir. Donc, ce n'était pas obligatoire qu'il nous explique ça, mais ça nous a quand même aidé à rester ferme pendant ses derniers jours et son décès. Vous connaissez le reste. Il est allé devant le tombeau. Il a prié le Père. Et puis, il a dit dans une voix forte, « Lazare, sort !» Et le jeune homme qui était couché sur ce banc de pierre s'est relevé et même qu'il était bandé de linge, il a marché vers la chaleur de du jour. Il aurait entendu beaucoup de cris, je crois, de cris de joie, de cris de frayeur, parce que certains auraient pensé que c'était un fantôme. Peut-être des cris des villageois appelant les derniers à venir voir et il aurait reconnu toutes ces voix. Puis il entend une autre voix qui dit « Délie-le et laisse-le aller. Laissez-le aller. » Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce récit? Premièrement, comme on a déjà dit, la résurrection est une personne et son nom est Jésus-Christ. Et il nous appelle à vivre la résurrection avec lui tous les jours, surtout dans les endroits ténébreux, dans les périodes ténébreuses comme celles que nous traversons. Vous voyez, dans notre culture occidentale, la mort est bien déguisée, polie, bien portante, prospère, comme à Genève. Un esprit de mort règne sur cette ville. Ce n'est pas évident par les yeux de la chair. Mais la mission consiste à amener la vie de Jésus dans les endroits, les villes, les quartiers où la mort règne encore. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à fonctionner, à marcher dans cette vie. On a aussi mentionné la leçon qu'on doit vraiment faire confiance au Seigneur, pas dans ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Mais la dernière leçon que je vais mentionner aujourd'hui, je vais terminer là, c'est que nous sommes tous, de temps à autre, face à la même tentation que ces deux sœurs. C'est-à-dire, quand le Seigneur n'exauce pas nos prières, nous enterrons nos prières et notre espérance dans un lieu pierreux et nous renfermons avec une pierre. Nous perdons l'espérance et nous savons que nous avons perdu l'espérance quand nous arrêtons de prier dans une certaine catégorie. Parce qu'on ne perd pas l'espérance tout d'un coup dans tous les domaines. On ne pourrait pas vivre comme ça. Mais, dans mon expérience, dans tous les pays où j'ai prêché, dans toutes les communautés, il y en a qui ont perdu espérance dans certaines catégories. Dites-moi où vous avez cessé de prier et moi je vous dirai où vous avez perdu espérance. Donc, il y en a qui ne prient plus pour leur famille. Ils ont prié pendant des années, rien n'a bougé. Il y en a qui ne prient plus pour leur église. Dans tous les pays du monde, même en Corée du Sud, les gens ne viennent plus à l'église. Il y en a qui ont perdu espérance pour leur pays, ce qui est le cas avec beaucoup d'Américains maintenant, beaucoup de Brésiliens, de ma connaissance. Et pour la jeunesse, la grande tentation de nos jours, c'est de perdre espérance pour l'avenir, parce que leur avenir leur a été dérobé. Rien n'est sûr, rien n'est certain, même la fin de la formation, dans beaucoup de cas. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que le Seigneur veut renouveler, même ressusciter notre espérance. Et il veut le faire ce matin. Et moi, je propose qu'on termine. Moi, je vais prier pour ça pour nous tous et pour ceux qui regardent depuis la maison. Mais on va d'abord demander au Saint-Esprit de nous révéler où nous avons cessé de prier, où nous avons perdu espérance. Parce que nous avons tendance à oublier. C'est trop douloureux. On ne veut pas se souvenir qu'on a prié et puis ça n'a pas marché. Ça a fait mal. Donc, on essaie de recouvrir ça. Et c'est seul le Saint-Esprit qui peut nous aider. Une des manières de retrouver l'espérance, c'est de prier. Moi, je vais prier cette prière. Mais on va d'abord, je propose, On va fermer les yeux et demander au Seigneur de nous montrer, Seigneur, où est-ce que j'ai perdu espérance? Où est-ce que j'ai cessé de prier? Dans quel domaine? Dans quelle catégorie est-ce que j'ai besoin de voir, de vivre une résurrection de l'espérance? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont perdu espérance pour le mariage. Soit ils ne sont pas encore mariés et ils perdent espérance, soit ils sont mariés et ils sont en train de perdre espérance que leur mariage va durer. Il y en a qui font face à une perte d'espérance pour leur vie professionnelle. Et nombreux sont les jeunes qui ont perdu espérance pour l'avenir. Il y a certainement d'autres catégories. Donc si le Seigneur vous a rappelé quelque chose ce matin, je vais vous demander de lever la main devant lui et de la baisser. Les deux sœurs ont dû rouler la pierre. Et c'est ce que nous allons faire en levant nos mains. Moi, je lève la mienne parce qu'il m'a montré un de ces domaines où j'ai cessé de prier. OK, on lève la main et puis on la baisse. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta fidélité, pour nous parler. Et je prie cette prière que Jésus a priée devant le lieu de mort de Lazare. Lazare, sort, que notre espérance revienne à la vie et à la lumière. Alléluia. Et je prie la prière de l'apôtre Paul pour les Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette prière magistrale, nous pouvons tous la prier tous les jours, et je vous le recommande vivement. Il y a deux autres disciplines qui nous donnent de l'espérance. Oui, merci. C'est Romains 15, verset 13. Il a aussi écrit aux Romains, chapitre 15, verset 4. C'est en lisant les Écritures qu'on a l'espérance. Et puis, on a écrit aux Hébreux 10, 23, gardez l'espérance, gardez la confession de votre espérance. Par nos mots, nos paroles, nous pouvons encourager l'espérance de notre famille, de notre groupe, de notre communauté, ou nous pouvons la démolir. Il y a une puissance dans les paroles et nous sommes exhortés à veiller sur notre confession, surtout dans ces temps difficiles. À garder notre espérance en Christ. Et il y aurait beaucoup plus à dire sur l'espérance. C'est dans le petit livre. Moi, je propose ce livre ce matin, pas juste pour faire écouler la marchandise, mais je crois que dans les temps difficiles qui sont encore devant nous, ce livre contient des leçons bibliques qui vont nous aider pas seulement à survivre, mais à être des ministres de l'espérance pour ceux qui nous entourent. Dans les temps sombres, la lumière brille beaucoup plus visiblement. Et les gens vont commencer à se tourner vers nous en disant, « Mais pourquoi vous êtes rayonnant et plein d'espérance? Vous ne voyez pas ce qui se passe? » Et c'est là que les portes vont ouvrir grandes devant nous. Et maintenant, si j'ai bien compris, on va avoir discussion en petit groupe, soit à la maison, soit ici. Et voici ce que je propose comme sujet de discussion. Qui va avec ce message sur l'espérance, c'est que moi, je suis en train de penser, comme d'autres qui l'ont dit, et même pas des croyants, que nous sommes en train de passer par les étapes de deuil. Vous savez qu'un médecin suisse, la doctoresse Kubler-Ross, a fait cette découverte, et elle a enseigné le monde entier, qu'avec le deuil, il y a des étapes qu'on traverse. Les étapes ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ce n'est pas dans le même ordre pour tout le monde. Il y a quand même des étapes très claires et nettes qu'on traverse. Et tout changement est un deuil. Ce n'est pas seulement quand il y a un décès de quelqu'un de proche, mais tout changement majeur, on est en deuil. On vit des étapes du deuil. Et moi, je crois que nous sommes tous en train de vivre ces étapes. Nous faisons le deuil d'un monde qu'on a perdu. Un ami était en France et puis une dame qui parlait de la situation actuelle et du passé. Et une dame disait, ah oui, mais c'était une belle vie. C'était une belle vie. Mais la vie comme nous l'avons connue, c'est fini. C'est fini, chers amis. Ça ne va pas être comme avant. Alors, il y en a beaucoup qui sont encore dans le déni de cela. Il y en a qui sont dans la colère, comme les jeunes à Sion. Et puis à Saint-Gall, etc., etc. Donc, je propose qu'on discute ensemble où est-ce que j'en suis dans tout cela. Parce que la difficulté cette fois, c'est pas seulement un deuil. On traverse les étapes et on arrive à l'acceptation, qui est l'étape finale. C'est qu'au milieu, là, quelque part, ça recommence. Et on doit refaire le deuil de tout ce qu'on a pensé pouvoir faire. Même les choses très simples, comme aller skier ou prendre l'avion pour Barcelone, des choses qui étaient faciles avant. Ce n'est plus facile. Et le Seigneur veut nous prendre par la main et nous faire traverser ces étapes pour que nous soyons justement ceux qui vont pouvoir proposer son réconfort à ce monde en désespoir. Seigneur, nous te remercions pour ce moment autour de ta parole. Je prie pour mes frères et sœurs que, oui, justement, tu fasses d'eux des ministres de l'espérance. Que tu fasses de cette communauté un phare d'espérance. Parce que dans les moments les plus sombres de l'histoire, quand tu es allé à la croix, c'est toi qui as triomphé et tu n'as pas changé. La résurrection est une personne et il s'appelle Jésus. Et il est ressuscité. Amen.